Et c'est l'heure du journal avec vous, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Mohamed Merah aurait-il pu être arrêté plus tôt, avant qu'il ne s'attaque à une école juive ? Au procès de son frère Abdelkader, un témoignage pointe les erreurs des services de renseignement, compte rendu d'audience de Florence Turne. Marlène Schiappa dévoile son plan pour lutter contre les violences sexuelles. Elle veut notamment que le harcèlement de rue soit verbalisé. Ça n'est pas une bonne idée pour le syndicat de la magistrature. Le patron de la Commission européenne, admiratif de la trajectoire budgétaire de la France, Jean-Claude Juncker encourage le Premier ministre Édouard Philippe à poursuivre sur cette voie. L'armée irakienne prend le contrôle du siège du gouvernorat de Kirkouk. Les forces irakiennes n'ont pas rencontré d'opposition de la part des combattants kurdes. Nous ferons le point sur la situation avec Marie-Pierre Véran. C'est un procès très particulier que celui d'Abdelkader Merah devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Deux semaines d'audience se sont déjà écoulées. Sur le papier, il s'agit d'établir les complicités dont a pu bénéficier Mohamed Merah en 2012, avant les tueries de Toulouse et de Montauban. Mais les familles de victimes se raccrochent aussi à ce procès pour mieux comprendre l'itinéraire du tueur au scooter, pour comprendre comment on a pu en arriver là. Et aujourd'hui, coup de tonnerre, l'ancien patron du renseignement intérieur à Toulouse souligne les erreurs des enquêteurs et il révèle l'existence d'une note classée défense dont les parties civiles n'avaient pas connaissance. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
Il est venu témoigner à visage découvert quand d'autres policiers ont recours à l'anonymat prévu par la loi pour les protéger. À la barre des témoins, Christian Balanduit raconte, clair et concis, la montée du radicalisme dans la région toulousaine et l'apparition d'Abdelkader Merah dès les années 2006 au milieu des groupes salafistes et, dit-il, du djihad de l'épée. Après le meurtre des militaires, la piste djihadiste me semble la bonne, poursuit l'ancien patron du renseignement toulousain, quand la direction centrale penche, elle, pour l'extrême droite. En creux, on perçoit soit la critique récurrente de la refonte du renseignement décidée en 2008 par Nicolas Sarkozy. Il demande la transmission des vidéosurveillances qu'il n'obtient pas, mais transmet lui à sa hiérarchie une série de 13 noms. Nous sommes le 15 mars 2012, 4 jours avant la tuerie de l'école. Le nom de Mohamed Merah figurait dans cette note, interroge la partie civile. Oui. Il y était. Je salue votre courage, monsieur, reprend maître Olivier Maurice, mais je reste indigné de la situation. C'est un mensonge d'État. Le mot est lâché. Je suis dans une situation difficile, monsieur le président, déclare le témoin, tout simplement parce que la note n'a pas été déclassifiée. Le nom d'Abdelkader Merah faisait-il partie de cette liste ? Intervient une autre avocate. Avec mes regrets, maître, mais je ne peux pas aller au-delà, nous sommes dans le secret défense. Un autre reformule la question, Abdelkader Merah a-t-il un rôle dans ces attentats ? Je n'ai pas de preuves, c'est un sentiment, mais pour moi, les attentats de Toulouse sont le fruit d'un projet collectif dans lequel Abdelkader Merah se situe et dont Mohamed Merah est le bras armé. C'est, conclut-il face à la cour, mon intime conviction.
Florence Turme au Palais de Justice de Paris. Depuis la révélation de l'affaire Weinstein aux États-Unis, les réseaux sociaux se sont emparés du thème des violences sexuelles. C'est même allé jusqu'à l'appel à dénonciation avec le hashtag Balance ton porc. Près de 160 000 messages ont ainsi été publiés. C'est dans ce contexte que la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes sort de son chapeau un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Un projet de loi devrait être déposé au premier semestre 2018. Marlène Schiappa était à 13h l'invitée de Bruno Duvic sur France Inter. Elle a notamment expliqué sa volonté de faire verbaliser le harcèlement de rue.
Le harcèlement de rue, c'est cette dite zone grise entre d'un côté la séduction, qui est caractérisée par le consentement entre deux personnes, et de l'autre côté l'agression sexuelle ou l'injure publique qui, elles, sont déjà caractérisées dans la loi, qui existent déjà. C'est pour ça que j'ai installé un groupe de parlementaires, de 5 députés, de tout groupe politique, de gens de droite, de gauche, du centre, de La République En Marche, qui ont pour mission de caractériser, de définir ce qu'est le harcèlement de rue dans
la loi. Parce que dans le métro, bonjour madame, je vous trouve charmante, est-ce que vous voulez prendre un café avec moi ? À quel moment est-ce que je suis un simple dragueur plus ou moins finaud ? À quel moment je deviens harceleur ?
Mais je pense que vous savez très bien, et moi aussi, on sait très bien que si on dit à une personne « Vous êtes charmante et j'aimerais prendre un café avec vous », c'est une proposition et ça n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, il est caractérisé parce qu'il crée un climat d'insécurité. Mais je voudrais dire que quand on a légiféré sur le harcèlement moral dans le travail, on avait ce même genre de réflexion. On nous disait « On ne pourra plus demander à notre collaboratrice ou notre collaborateur de faire 2 heures supplémentaires, on dira que c'est du harcèlement ». On a bien vu qu'en réalité, on a pu caractériser et la justice avait pu caractériser très clairement ce qu'était le harcèlement moral. Je souhaite qu'on fasse la même chose pour le harcèlement de rue.
Marlène Schiappa sur France Inter. Définir précisément le harcèlement de rue, ça n'est déjà pas simple. Mais ensuite, comment sanctionner ces faits ? La proposition de Marlène Schiappa n'a pas du tout convaincu le syndicat de la magistrature. Écoutez la réaction de la secrétaire nationale du syndicat, Katia Dubreuil.
C'est indispensable que ce genre de fait ne soit pas toléré et que, effectivement, à travers la formation, à travers la prévention, on puisse lutter contre ce genre de fait. Mais en revanche, une verbalisation, ce n'est pas adapté. D'abord pour des raisons pratiques, on voit bien qu'il sera impossible de mettre un policier derrière chaque femme. Ce sera comme d'habitude une procédure classique avec une plainte. Et après, on a évidemment des risques importants que ce soit aussi comme d'habitude la parole de la femme contre la parole de l'agresseur. Ensuite, pour des raisons de fond, le pénal, on en fait souvent à travers un certain nombre de lois, quelque chose de symbolique. Mais notre droit pénal regorge d'infractions qui ne peuvent pas être appliquées en pratique et qui s'accumulent et qui brouillent totalement notre droit. L'effet dissuasif, par ailleurs, de ces dispositions est nul parce qu'on sait, enfin, les personnes savent justement qu'il n'y a pas un policier derrière chaque femme et qu'il n'y aura pas d'éléments dissuasifs par rapport à cette verbalisation éventuelle.
Katia Dubreuil du syndicat de la magistrature est tout aussi réservée sur les autres propositions de Marlène Schiappa concernant l'allongement de la prescription des crimes sexuels sur mineurs et la présomption du non-consentement pour les enfants. Mais la secrétaire d'État a justement promis un temps de concertation avec les acteurs du secteur. Les citoyens étant eux aussi conviés à la réflexion, 300 ateliers vont être organisés dans le cadre d'un Tour de France de l'égalité. La réforme de l'université se prépare. Un rapport est remis aujourd'hui à Frédéric Vidal. Il s'agit notamment de trouver un successeur au fameux logiciel APB, devenu la bête noire des lycéens et de leurs proches. Mais la ministre prévoit aussi d'instaurer, comme le souhaite Emmanuel Macron, des prérequis à l'entrée à l'université. Ça doit notamment permettre d'éviter le recours au tirage au sort mis en place par certaines facs face à une très forte hausse démographique. Il faut le souligner, 40 000 étudiants supplémentaires cette année. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Il existe des exemples vertueux. Vous vous êtes rendu à l'université de Grenoble qui a mis en place un dispositif intitulé « Pédagogie inversée ».
Et oui, nous sommes en cours de physiologie avec les premières années de STAPS. Ici, pas de tirage au sort, pas d'amphi surchargé avec des centaines de personnes. L'enseignant n'a que 35 étudiants face à lui, ce qui lui permet d'interagir et d'évaluer directement les difficultés de chacun d'entre eux, notamment grâce à des petits boîtiers électroniques sur lesquels ils peuvent répondre à des questions qui leur sont posées par l'enseignant. Quant aux cours magistraux, eh bien ici ils sont faits via des podcasts vidéo. Karine Couturier, leur professeur de physiologie.
Le format, c'est toujours sur 3 semaines. Donc une semaine, les étudiants regardent les vidéos, ils posent des questions sur le forum. Ensuite, il y a une régulation en grand groupe qu'on vient de faire aujourd'hui, où on reprend des éléments du cours, on répond aux questions. Et enfin, il y a une régulation petit groupe sur la 3e semaine, où ils sont évalués à la fin de cette régulation, et où on travaille plutôt des questions d'examen, on va faire des exercices, et encore à nouveau répondre aux dernières questions, puisque certains étudiants attendent finalement cette régulation pour finir de regarder les vidéos.
Un dispositif qui demande aussi de la rigueur et de la discipline, ce qui n'est pas toujours facile lorsque les étudiants doivent travailler chez eux leurs cours magistraux via des petites vidéos comme celles que l'on entend derrière nous. Du coup, l'université a mis à leur disposition des petites salles pour travailler en groupe. C'est ainsi que l'on retrouve Aurélien, étudiant de première année qui travaille sur un écran vidéo, un cours avec l'un de ses camarades.
C'est spécial, ça change de la terminale, du coup on est tout le temps assis, le prof il parle tout le temps et là c'est à nous vraiment de nous mettre au boulot et personne pour nous dire faut le faire, sinon tu réussiras pas.
Et est-ce que vous avez le sentiment de mieux comprendre les cours avec les podcasts, avec les graphiques que vous avez, avec la documentation numérique?
Un petit peu mieux, oui, parce qu'on peut, on peut mettre sur pause, donc c'est génial. Parce que donc s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, donc on met sur pause, on peut faire notre petite recherche sur Internet pour voir ce que c'est et relancer le cours ensuite derrière.
Pour autant, la direction de l'université, qui a mis ce dispositif en place il y a tout juste 3 ans, a bien dû convaincre une partie des enseignants, car faire cours sur des vidéos, cela demande de revoir totalement la préparation des cours, comme nous l'explique Jean-Philippe Euzé, le directeur de la filière STAPS.
Ça doit rester quand même au choix de l'enseignant de pouvoir à un moment décider quelles sont les formes d'enseignement qui sont les plus intéressantes pour lui, pour arriver à ses objectifs pédagogiques. Et donc il faut aussi laisser le temps aux collègues de découvrir un petit peu toutes les formes d'enseignement qui existent, quels sont aussi les espaces d'enseignement qui permettraient de mieux répondre à la pédagogie qu'ils peuvent mettre en place pour avancer progressivement ensemble dans cette direction.
Pour poursuivre dans cette direction, l'université a besoin de moyens supplémentaires. Pour l'instant, cette mesure est appliquée juste en première année de licence en STAPS, ce qui coûte déjà 300 000 euros supplémentaires chaque année. L'objectif est donc de mutualiser les investissements en s'associant avec d'autres universités de la région, par exemple, comme nous l'explique Henri Benoît, vice-président de l'université de Grenoble en charge des questions numériques.
Il y a quelque chose de très chronophage, c'est l'élaboration des quiz, des QCM intelligents, et ça coûte très cher en temps, en moyens humains. Et l'idée, c'est de créer une base de données entre plusieurs établissements qui nous permettent d'augmenter la richesse de ces quiz.
Alors, en attendant de trouver de nouveaux moyens supplémentaires, grâce à la pédagogie inversée, l'Université de Grenoble a déjà pu réduire en STAPS le nombre de décrocheurs qui était divisé par deux, puisqu'il est passé de 40 à 20%.
Hakim Kasmi. Emmanuel Macron lance demain une concertation sur la lutte contre la pauvreté des enfants. Une occasion peut-être d'atténuer l'image qu'il traîne de président des riches et qu'il n'a pas vraiment réussi à modifier hier soir lors du grand entretien qu'il a accordé à l'Élysée. Le président a été regardé par 9,5 millions de Français et il a plutôt convaincu ceux qui ont suivi jusqu'au bout ses échanges avec trois journalistes, mais les autres n'ont pas changé d'idée. Pour Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste, Emmanuel Macron n'a tout simplement pas entendu les revendications des Français.
Je crois que le président de la République n'a répondu à aucune des inquiétudes des Français et à aucune des colères qui sont en train de grandir dans le pays sur tous les sujets. Il a tout assumé des décisions de l'été, sans en retrancher aucune, sans faire aucune annonce nouvelle, comme si aucune contestation ne s'exprimait dans le pays. Et il l'a fait, à mes yeux, avec beaucoup d'arrogance, toujours sur le registre du monsieur qui sait tout et qui explique tout à tout le monde, sans tenir compte de ce qui se passe dans le pays. Et sa laborieuse explication sur les mots insultants qu'il a eu à plusieurs reprises pour les Français aggrave même son cas, puisqu'il dit que c'est du vocabulaire populaire, en quelque sorte une forme de mépris supplémentaire pour la parole populaire de la rue. Donc je crois que c'est une intervention qui non seulement ne met pas un terme à la crise sociale qui est en train de grandir dans le pays, mais qui va sûrement l'aggraver encore un peu.
Pierre Laurent au micro de Julia Siriex. Le Parti communiste annonce la tenue d'états généraux du progrès social le 3 février prochain. Ambition affichée, faire reculer Emmanuel Macron et agir pour le progrès social. Une fois n'est pas coutume, le président de la Commission européenne tresse des lauriers à la France. Édouard Philippe s'est rendu aujourd'hui à Bruxelles pour souligner la détermination française à ramener notre budget dans les clous. L'exécutif français compte atteindre en 2017 un déficit public de 2,9% du PIB, juste en dessous de la limite des 3% fixée par les traités européens. Et Jean-Claude Juncker a fait preuve d'un bel enthousiasme, écoutez-le.
Nous applaudissons des deux mains aux éléments majeurs de cette réforme. Les réformes structurelles porteront leurs fruits après un certain nombre d'années. Il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Pour avoir été pendant 17 ans ministre du Travail, je sais que les réformes en matière de marché du travail, en matière de droit du travail, mettent du temps à agir sur le terrain. Quant à la trajectoire budgétaire, je suis assez admiratif devant le fait que la France, sans aucun doute, réussira à corriger le niveau du déficit budgétaire en deçà des 3% pour l'exercice en cours, ce qui n'est pas chose facile. Je parle de l'exercice budgétaire 2017. Je vois que les perspectives pour 2018 pointent dans la bonne direction, mais je crois que la France, qui n'a pas sa place dans cette procédure de déficit budgétaire excessif, sortira de cette situation inconfortable pendant l'exercice 2018.
Jean-Claude Juncker au micro de Pierre Benazet. L'Union européenne adopte de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, une réponse à l'essai d'une bombe nucléaire début septembre. Ces mesures visent en particulier l'armée nord-coréenne, dont les avoirs en Europe sont désormais gelés. Les Européens souhaitent envoyer un message de grande fermeté pour ramener la Corée du Nord à la table négociation, a souligné le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Les forces irakiennes sont entrées dans Kirkouk. Seul le drapeau irakien flotte désormais au sommet du siège du gouvernorat. Des soldats vont maintenant être déployés dans les champs pétrolifères de la région pour relancer la production que les autorités régionales avaient suspendue. Bonsoir Marie-Pierre Véro.
Bonsoir Aurélie.
L'armée irakienne n'a pas rencontré d'opposition de la part des combattants kurdes.
En effet, d'après les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, c'est presque sans coup férir que les forces irakiennes ont repris le contrôle de plusieurs secteurs, notamment au sud de la ville, la principale base militaire, l'aéroport, une centrale électrique, une raffinerie et le siège de la North Oil Company. Redoutant des violences, des milliers de familles kurdes ont fui Kirkouk, violence dont s'inquiétaient d'ailleurs aussi les États-Unis, peu désireux de voir s'affronter deux camps, soldats irakiens et peshmerga kurdes, deux camps qu'ils financent, entraînent et équipent. Cette région de Kirkouk, rappelons-le, elle fait partie des territoires disputés entre Kurdes et pouvoirs centrales à Bagdad, en raison notamment de la manne pétrolière, six champs pétrolifères vitaux pour l'économie l'autonomie irakienne. Les Peshmerga avaient pris le contrôle en 2014, profitant de la débâcle de l'armée irakienne face à l'avancée de l'État islamique. Alors, poursuivant cette progression rapide, eh bien les forces irakiennes, vous le disiez, sont donc aussi entrées dans la ville de Kirkouk sans rencontrer plus de résistance pour prendre possession cette fois du siège du gouvernorat qui avait été déserté. Les combattants kurdes ne semblent ne s'être opposés que très ponctuellement à l'avancée des troupes de Bagdad, car il ne faut pas l'oublier, Kirkouk incarne aussi les divisions kurdes. C'est l'UPK, rival du PDK de Massoud Barzani, qui dominait le sud de la province. L'UPK, plus encline à une solution négociée avec Bagdad, est réputée proche de l'Iran. Elle aurait reçu l'ordre de ne pas combattre. Nul doute, en tout cas, que Massoud Barzani paye là le référendum d'indépendance du 25 septembre, qu'il a tenu à organiser également dans cette région, pourtant disputée, et qui n'appartient pas au Kurdistan autonome. Alors s'il perd le contrôle de ses puits, eh bien le Kurdistan irakien perdra dans le même temps une ressource cruciale pour son indépendance.
Marie-Pierre Véraud, en Syrie, Raqqa est sur le point de tomber. Les forces anti-djihadistes soutenues par la coalition internationale sont engagées dans une bataille contre les derniers combattants du groupe État islamique retranchés dans leur ex-capitale. Les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes étaient entrés dans Raqqa début juin, mais ils sont maintenant sur le point de reconquérir le tout dernier réduit contrôlé par quelques dizaines de djihadistes étrangers dans une ville vidée de ses habitants. En Somalie, le bilan du double attentat de Mogadiscio dépasse maintenant les 300 morts. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection islamiste en 2007. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais le pouvoir pointe du doigt les Chebab, les rebelles djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Que sait-on d'eux aujourd'hui? À combien évalue-t-on leur nombre? Question posée par Nabila Hamel à Marc Lavergne, directeur associé au CNRS.
Alors les Chebab sont estimés au nombre de 5000, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment l'élément déterminant pour juger de leur capacité de nuisance. Hein. Je crois que ça pose des questions sur leur organisation, sur leur résilience, comme on dit, sur leur financement, sur leurs objectifs, sur leur capacité à venir dans la capitale, frapper au cœur du pouvoir légal, sinon légitime, qui a été instauré par les Occidentaux en Somalie. Donc, en contre-champ, je dirais que ça montre en quoi toute l'opération de stabilisation de la Somalie qui est en cours depuis le début des années 2000 est en train d'échouer, c'est-à-dire que les Chebab effectivement ont été repoussés par l'arrivée d'une force interafricaine soutenue par les Américains et les Occidentaux, mais finalement cette force est en train de se retirer pour des raisons financières, par épuisement, etc. Les Éthiopiens également rentrent chez eux en ayant semé beaucoup de haine et de désolation à travers le pays. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus grand monde pour défendre la loi et l'ordre en Somalie. Sinon, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, une intervention avec des drones tueurs, avec des instructeurs américains pour une armée qui finalement n'est pas très motivée, puisque il y a 3 jours encore avant les attentats, c'est le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée qui avaient démissionné.
Marc Lavergne, interrogé par Nabila Hamel, et les États-Unis indiquent qu'ils sont prêts à renforcer leur soutien au gouvernement somalien. Nouvel ultimatum de Madrid aux séparatistes. Le gouvernement espagnol donne jusqu'à jeudi à Carles Puigdemont pour dire si, oui ou non, il a déclaré l'indépendance de la région. Parallèlement, le parquet a requis le placement en détention provisoire du chef de la police de Catalogne dans le cadre d'une enquête pour sédition. L'état d'urgence a été décrété au Portugal. Le pays avait déjà été endeuillé cet été. 64 personnes avaient alors péri dans des incendies. De nouveaux feux se sont déclarés ces derniers jours, des feux incontrôlables. 32 morts et 50 blessés ont déjà été recensés. Il y a également 7 disparus, Marilyn Darcy.
Les secours tentent toujours de faire le point sur les victimes. Parfois, il s'agit de gens qui ont tenté de sauver leurs biens, comme ces deux frères qui ont voulu sauver la réserve de bois de leur père et se sont retrouvés prisonniers des flammes, ou cette jeune femme prise de panique qui a fait demi-tour sur l'autoroute et percuté une autre voiture. Un sauf qui peut face à des situations infernales, de feux intenses attisés par des températures hors normes de l'ordre de 35 degrés et par les vents de la tempête tropicale Ophélia qui a longé le Portugal dimanche. Un record d'incendie a été enregistré, quelques 500 si l'on prend en compte les incendies secondaires. Une situation qui fait dire au Premier ministre Antonio Costa qu'il est impossible aux pompiers de répondre à tous les appels au secours. La pluie annoncée est attendue avec désespoir alors que le Portugal vit une nouvelle tragédie incendiaire, 4 mois après celle de Pedro Grand qui avait fait 64 morts et 250 blessés.
Marilyn Darcy à Lisbonne, et des incendies sévissent aussi dans le nord de l'Espagne. En Irlande, la tempête Ophélia a fait 3 morts, les vents atteignent jusqu'à 150 km/h sur la côte ouest du pays. En France, le temps restera beau demain si l'on excepte quelques pluies en Bretagne et dans le sud-est. Les températures minimales seront comprises entre 5 et 15 degrés. Les maximales atteindront 14 à 25 degrés, jusqu'à 29 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.